9h26 minutes. On a bien sûr suivi tous ces bouleversements dans le monde arabe. Et quand une dictature tombe, quand un chef autoritaire quitte, on se demande toujours par qui sera-t-il remplacé et quel sera l'impact sur les populations. Notre invité est de passage au Québec. Il est le directeur du Centre culturel jésuite d'Alexandrie en Égypte. Le père Henri Boulade est avec nous. Père Boulade, bonjour, bienvenue au Québec.
Bonjour.
Vous avez été aux premières loges, évidemment, de ce qui s'est passé en Égypte, de la chute du régime Moubarak, de la montée au pouvoir de l'opposition. Et régulièrement, d'abord, on s'est parlé à quelques reprises lors de ces événements, et j'ai lu ce que vous avez dit et écrit par la suite. D'abord, si on prend tout le début de ce mouvement en Égypte, il y avait quand même une soif de liberté réelle et un besoin de renverser un gouvernement qui en imposait par la force.
Il y a eu un éveil, un réveil, si on peut dire, surtout de la jeunesse qui est à l'origine de ces mouvements, qui ont commencé en Tunisie, avec ce jeune qui s'est immolé là-bas, mais ça a été contagieux. En fait, on s'aperçoit qu'il y a là une espèce de prise de conscience nouvelle qui n'existait pas, parce que on est depuis des décennies endormi, dominé par les dictatures. Je ne parle pas simplement de l'Égypte, je parle de l'ensemble du monde arabe. La Tunisie a ouvert le chemin parce que c'est un pays beaucoup plus cultivé, beaucoup plus ouvert à la modernité que l'Égypte. Et donc, ce déclenchement s'est multiplié comme une traînée de poudre grâce au réseau actuel de communication, Facebook, etc. Les jeunes d'Égypte sont très, très branchés là-dessus. Ils n'ont rien à apprendre. Alors là, cette prise de conscience est pour moi un phénomène qui dépasse le politique proprement dit. C'est comment dire, une ouverture à la modernité, à la liberté. Pour la première fois, on sent qu'on est libre, qu'on peut parler. Il faut bien dire, mettre ça au crédit de Moubarak, qui a ouvert le chemin à la liberté d'expression. On peut dire que dans les dernières années du régime Moubarak, la liberté d'expression était extrême. Des choses que je n'aurais pas imaginées du temps de Nasser, puisque j'ai vécu un peu les trois régimes, Nasser, Sadat et puis
Moubarak.
Je me suis dit, mais comment laisse-t-il le discours aussi libre que ça? On avait le droit de critiquer un peu tout le monde, même Moubarak lui-même, vers la fin, était critiqué ouvertement. Donc, je dirais que Moubarak a ouvert la porte à cette révolution qu'il a fait chuter, hein, et qui inaugure, à mon avis, une étape nouvelle dans le monde arabe.
Mais quand vous parlez de cette soif de liberté, de ce mouvement animé principalement par des jeunes qui l'ont porté, évidemment, on a vu ça ailleurs dans d'autres pays, vous donniez des exemples, mais en même temps, dans le cas de l'Égypte, on a l'impression que cette fraîcheur, que ce renouveau a cédé rapidement la place au retour de forces beaucoup plus conservatrices, à des intégristes de l'islam qui ont profité de la chute d'un régime pour s'imposer.
Exactement. En fait, je me demande si nous ne sommes pas trop innocents de croire que c'est un mouvement spontané des jeunes. Je pense qu'il y a derrière cela une main secrète, une main mystérieuse, qu'on appelle la politique internationale, qu'on appelle... Il y a Israël, il y a l'Amérique, il y a l'Europe, il y a l'OTAN, qui, à mon avis, est derrière tous ces bouleversements que nous vivons en ce moment-là. Et on aurait tort de sous-estimer les interventions étrangères dans ce que nous vivons. Il y a certainement un mouvement populaire réel, une prise de conscience qui est évidente, n'est-ce pas? Mais je me rends de plus en plus compte qu'il y a un plan qui se déroule de façon assez systématique.
Mais actuellement, quelle est la situation politique en Égypte? Les frères musulmans, est-ce que c'est le retour à une application rigoureuse et culturelle, par exemple, du Coran, de la charia? On est dans quel état d'esprit?
Absolument. Moi, qui suis à Alexandrie, n'est-ce pas, je suis né là-bas. Le nombre de décibels qui a augmenté sur le plan de l'appel à la prière et qui est suivi de toutes sortes de psalmodies qui vous empêche de travailler a augmenté ces derniers mois de façon drastique. Je dirais, il y a un envahissement du religieux dans la société qui est dramatique. Et des persécutions chrétiennes quotidiennes, des kidnappings de filles chrétiennes qui disparaissent, des prêtres, des églises brûlées, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, parce que le mouvement frère musulman a commencé depuis belle lurette. Mais ce genre d'insécurité, en particulier par rapport aux chrétiens, est quelque chose de nouveau. D'où un exode massif des chrétiens, en particulier vers le Canada, le Québec notamment. On parle de 150 000 chrétiens qui seraient déjà partis. Et la plupart de mes amis font leur valise en ce moment, demandent une émigration. Et puis, il y a une insécurité notoire et, comment dire, un fanatisme croissant contre tout ce qui est chrétien.
Notre invité ce matin, le père Henri Boulade, qui est directeur du Centre culturel jésuite d'Alexandrie en Égypte. Avez-vous l'impression que l'Égypte va devenir un État islamique?
Oh oui, mais il l'est déjà. Et malheureusement, évidemment, malgré toutes les résistances de ce courant laïque et libéral que nous connaissons, je pense qu'on est devant une montagne, une pyramide, pour dire les choses à l'égyptienne, qu'il est difficile de bouger. Mais à long terme, autant je suis pessimiste à court terme, autant je suis optimiste à long terme, parce que j'ai la conviction qu'on ne peut pas aller contre l'homme, contre l'esprit, avec un E majuscule. On ne peut pas aller contre la nature de l'homme, et tôt ou tard, la nature se venge. Que ce soit sur le plan biologique, que ce soit sur le plan sociologique, que ce soit sur le plan tout simplement humain, n'est-ce pas? On ne peut pas aller contre ce qui fait l'homme. Et là, je dirais que on aura une phase de l'hiver arabe, comme on dit, n'est-ce pas? Nous y sommes actuellement, et ça ira très loin et très profond. Mais je pense qu'il y aura un réveil progressif. D'autant que, à mon avis, l'islam est en pleine interrogation sur lui-même.
Bon, dans quel sens?
En ce sens, il y a de plus en plus de musulmans qui se déclarent athées ou agnostiques actuellement en Égypte. C'est un phénomène absolument nouveau. Et de chrétiens aussi, pas seulement de musulmans. C'est pas, ils en ont ras-le-bol du religieux. Le religieux, actuellement en Égypte, est devenu tellement envahissant qu'il y a un phénomène de rejet. C'est pas, d'autant que les hommes de religion ne sont pas du tout branchés sur la modernité. Et les jeunes, c'est la modernité. Alors, il y a une espèce de conflit de mentalité. Hein. Les hommes de religion veulent vous faire revenir 14 siècles en arrière avec la charia et tout le reste, n'est-ce pas? Mais les jeunes n'avalent plus ça. Autrefois, ils l'avalaient. Maintenant, ils l'avalent plus.
Vous savez qu'au Québec, on est depuis quelques années dans un débat sur ce qu'on appelle les accommodements raisonnables, religieux, des
oui,
demandes.
J'étais là quand on discutait de ça, oui, il y a quelques années.
Et quelle est votre lecture de ce genre d'événements, par exemple, de demandes, de revendications qui sont faites pour des considérations donc religieuses, que ce soit l'aménagement d'un lieu de prière ou le port de symboles religieux dans l'univers laïque? Il y a un fort courant au Québec qui dit que l'espace public doit être laïque. Vous pensez quoi de ça? Puis comment est-ce qu'on doit interpréter ces demandes qui sont faites?
Ces demandes qui sont faites entrent dans une politique de grignotage progressif de votre laïcité et de votre législation. Il y a une technique qui est bien mise au point par les frères musulmans qui actuellement mènent ce mouvement en sous-main, si vous voulez, dans les coulisses, mais qui sont derrière ce que j'appelle le grignotage progressif dont les accommodements raisonnables dont vous parlez font partie. Et alors, à mon avis, l'Occident, pas seulement le Québec ou le Canada, mais l'Amérique, mais la France, mais l'Espagne, mais l'Italie, est en train de se laisser avoir et de brader des valeurs qu'il a mis des siècles à conquérir et à défendre et qui sont actuellement, avec une facilité déconcertante, laissées à ses militants d'un obscurantisme qui est navrant. Je lisais il y a quelques jours, n'est-ce pas, une nouvelle d'un organisme international de statistiques qui disait que les 6 millions d'Israéliens lisent plus de livres que les 400 millions d'Arabes. Hein? C'est symptomatique. Hein? Ceci évoque un souvenir. Cheikh Sharawi était un prédicateur populaire en Égypte qui avait la cote, qui pendant 20 ans a tenu le prône du vendredi à la radio et à la télévision. Mais cet homme se faisait une gloire de n'avoir lu aucun livre pendant 40 ans, puisque tout est dans le Coran. Il n'y a plus lieu d'ouvrir quoi que ce soit, puisque j'ai la vérité définitive et totale dans ce livre qu'on appelle le Coran. Alors, cet homme a été pendant 20 ans le père spirituel, si on peut dire, de la nation, non seulement égyptienne, mais du monde arabe, puisque jusqu'à présent, ces cassettes se vendent sur les trottoirs d'Alger, de Tunis et de Bagdad. Alors, pour moi, ce refus de la modernité, ce refus de l'ouverture, ce refus de la pensée critique est tragique, au point que, actuellement, nous allons vers un affrontement, s'il n'a pas déjà commencé, qui va être vraiment de grande ampleur.
Un affrontement de valeurs, là.
De valeurs, n'est-ce pas? Si vous voulez, le grand défi de l'Église, autrefois, était la modernité, et ça l'est toujours. Hein? Et c'est là qu'achoppe encore l'islam. Si vous voulez, les religions ne parviennent pas à avaler cette modernité qui est le primat de l'homme, qui est la pensée critique, qui est la liberté, qui est l'individu contre la masse. Et alors, les religions sont toujours braquées contre. Le christianisme a commencé, il a pactisé. Avec Vatican II, on a ouvert les portes beaucoup plus grandes et on est sur un processus de réforme. Mais la question que je pose, et que je pose de façon très claire et très ouverte à mes amis musulmans, car j'ai un nombre énorme d'amis musulmans et avec lesquels j'ai d'excellents rapports, l'islam peut-il se réformer sans se trahir? L'islam peut-il se réformer sans se dénaturer?
Et s'ouvrir à la modernité.
Et voilà. Et alors, la question, hein, à mon avis, l'islam s'est embarqué dans un système clos qui a été cadenassé au Xe siècle par trois décisions que j'ai développées dans une interview à France 24, où la porte de l'ijtihad a été fermée. La porte de l'ijtihad, ça veut dire la permission de réfléchir par soi-même, de critiquer, a été fermée. Donc, si vous voulez, désormais, le musulman est contraint de se tenir à ce que les penseurs de l'islam ont élaboré pendant les trois premiers siècles.
Mais en même temps, il y a beaucoup et je sais que parmi nos auditeurs, de musulmans qui, justement, ont fui des régimes arabes religieux, qui sont venus au Québec pour s'établir en disant on ne veut pas vivre dans un régime de barbus, on ne veut pas connaître ce genre-là, et on ne veut surtout pas que ça s'implante ici. Là.
Ben justement, ils ont bien raison de se battre. Et c'est eux qui sont les porteurs de ce message. Hein. Moi, je ne parle pas en tant que chrétien ou en tant que prêtre. Je parle en tant qu'homme, tout court. Je trouve que ce courant vers lequel nous allons est un courant contre l'homme, contre l'humanité, déshumanisant. Mais il n'y a qu'à voir la stérilité notoire des pays arabes par rapport au Japon, qui n'est pas chrétien, par rapport à la Chine, qui n'est pas chrétienne, par rapport à l'Inde, qui n'est pas chrétienne, évidemment par rapport à tout l'Occident, qui n'est plus chrétien, disons. Bon, mais peu importe, disons, il a été porté par des valeurs chrétiennes. La modernité est un fruit de l'Évangile. Le plus grand révolutionnaire de l'histoire, pour moi, c'est Jésus. C'est un homme qui me fascine. Mais la question que je me pose, l'Église n'a-t-elle pas trahi Jésus? Hein? Et j'ai une lettre au pape virulente que j'ai écrite en 2007. Hein? Je n'ai pas reçu de réponse et je n'en attends pas d'ailleurs, n'est-ce pas? Mais pour dire que mon combat n'est pas contre qui que ce soit. Mon combat est un combat pour l'homme, pour la liberté, pour la dignité de l'homme et pour la vérité. Jésus nous a dit « La vérité vous rendra libre ». Or, actuellement, le politiquement correct vous la boucle. On n'a plus le droit de dire la vérité dans des pays qui se prétendent libres, comme le Canada, comme les États-Unis, comme la France, et comme d'autres pays. On n'a plus le droit de dire ce qu'on pense, parce qu'on est muselé par le politiquement correct. Eh bien, moi, je suis politiquement incorrect, et je le resterai. Parce que, pour moi, c'est la vérité qui compte. Je ne vais flatter personne, ni l'Église, ni l'Islam.
Père Boulade, merci beaucoup de votre visite ce matin.
Merci.
Toujours très intéressant et bon séjour au Québec.
Merci beaucoup.
Au revoir. On fait une pause. Le père Henri Boulade, qui est directeur du Centre culturel jésuite à Alexandrie en Égypte. 9h42, nous sommes de retour après ceci.